théoricien, Dieu est un praticien. Il a donné sa vie lui-même pour nous racheter. Il n'a pas dit à quelqu'un d'autre, va payer le prix. Il a dit lui-même qu'il allait payer le prix. Et en Jésus-Christ, Dieu, Fils, est venu payer le prix. Lui, l'innocent, lui à qui on ne pouvait rien reprocher, lui dont tout le parcours était un parcours parfait. Il a eu cette phrase énorme. Il a dit à ses accusateurs, si quelqu'un est capable de me convaincre de péché, alors il aura raison de moi. Et la Bible dit qu'aucun de ses accusateurs ne pouvait trouver de quoi lui reprocher. Et que même dans son procès, on a dû chercher de fausses accusations parce qu'il n'y en avait pas. Lui, le parfait, a donné sa vie pour nous racheter. Quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour! Alors, c'est de ce Dieu-là que nous vous parlons dans cette église. C'est ce Dieu-là que nous annonçons dimanche après dimanche. Et ce Dieu s'est révélé dans ce livre, la Bible, parole de Dieu. La Bible, parole de Dieu. Ce n'est pas simple de dire la Bible est parole de Dieu. Je crois que nous, peut-être chrétiens du 21e siècle, nous ne réalisons pas ce que ce livre a coûté comme vie et sacrifice pour que nous l'ayons aujourd'hui en tellement de versions. C'est un livre qu'il faut chérir. Pas le chérir en le dépoussiérant seulement ou en le posant dans des endroits beaux, mais le chérir en le lisant, le feuilletant, le méditant, le croquant, le mangeant, je ne sais pas quelle expression, mais c'est un livre qu'il faut lire, mais chercher à comprendre. Car la parole de Dieu est la source de la vie. Car la parole de Dieu est la source de la vie. Alors dans cette vision d'amour, il y a ce texte de 1 Jean chapitre 2 verset 5 que je vais lire en plusieurs versions. Nous qui nous disons chrétiens, Jean dans ses épîtres s'adresse à des chrétiens de façon claire, précise et parfois de façon crue pour leur rappeler la vision d'amour de Dieu. Pour leur dire avec force et raison que l'amour de Dieu n'est pas que théorique et que les chrétiens devraient au-delà de dire que Dieu est bon, montrer que Dieu est bon, vivre la bonté de Dieu, être des femmes et des hommes pétris de l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Que nous dit ce texte? Ce texte nous dit que si nous voulons savoir que nous sommes en Dieu, ben nous devons garder sa parole. Et le thème garder ici, c'est pas juste lire, c'est pas juste retenir, c'est pas juste connaître. Le thème garder, c'est pratiquer. Vivre la parole. Dans la version de la Bible, Nouvelle Seconde, il est dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. Vous savez cette phrase de Jésus à la croix, lorsque la chose était à son terme, il a dit « Tout est accompli ». Et le texte de Jean nous dit « Celui qui garde cette parole, l'amour de Dieu est accompli en lui ». Jean non plus, l'apôtre Jean n'était pas un théoricien, c'était un praticien de l'amour de Dieu. Des 12, l'histoire nous raconte que c'est celui qui a été le plus marqué par l'amour de Dieu. Par l'affection de Jésus, parce qu'il était le plus jeune, il parle de cet amour avec tellement d'émotion dans ses épîtres et dans son évangile. Il est celui qui a été visiblement mandaté par Dieu pour nous montrer la force de l'amour de Dieu. À ceci, nous savons que nous sommes en lui, si nous gardons cette parole. Dans une autre version, la version Semeur, il est dit, celui qui observe sa parole, celui qui observe, observer, c'est pas juste regarder. Observer, c'est regarder, lire, méditer, mais faire comme ce qu'on a lu. Vivre ce qu'on a lu. Celui qui observe, celui qui marche, celui qui vit cette parole, dit la version Semeur, montre par là qu'il aime vraiment Dieu. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, la façon la plus authentique que nous avons de montrer que nous aimons Dieu, c'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est ainsi seulement que nous savons que nous sommes unis à Dieu. Au-delà de nos émotions, vous savez, nos émotions sont changeantes, nos humeurs aussi. C'est des choses tellement fugaces qu'elles ne sont pas solides. La seule solidité de la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies, c'est quand nous obéissons à la parole, quand nous marchons selon la parole, quand nous faisons tout, quels que soient les temps ou les circonstances, selon la parole. C'est un processus, c'est vrai. Et moi, j'aime l'idée que c'est un processus, parce qu'on n'est jamais arrivé, parce qu'on est toujours en chemin. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer de progresser. Même si on est tombé, même si on n'a pas réussi tous les jours, il faut se relever et dire « L'amour de Dieu qui m'a tant aimé pour que moi je sois en réponse à cet amour, je veux continuer d'aimer mon Dieu. » Et cette marque de l'amour, c'est de continuer de laisser sa parole être autorité sur moi. C'est de laisser sa parole me guider, me conduire, me construire. Je ne veux pas me refuser à cette dynamique-là. Je ne veux pas me refuser à cette dynamique-là. Dans la version qu'on appelle la traduction œcuménique de la Bible, elle dit, mais celui qui garde sa parole, en lui, vraiment, l'amour de Dieu est accompli. Et enfin, dans la parole qui s'appelle parole vivante, mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Que la démonstration dans un monde qui ne reconnaît plus Dieu, que la démonstration ne soit pas la proclamation verbale seulement. Qu'elle soit nos vies. N'est-ce pas que il dit que nos vies sont des lettres ouvertes de Christ et que l'étendard que nous pouvons dresser au-dessus de nous comme notre drapeau, c'est l'amour de Dieu. N'est-ce pas que Jésus, dans cette prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, a dit de par l'amour que vous allez manifester les uns avec les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Je me rattache tellement à cet amour de Dieu parce qu'il m'a touché. Parce que Dieu m'a touché, parce que Dieu t'a touché. Parce que tu te souviens le jour où cette rencontre a été faite en toi et Dieu, cette rencontre d'amour. Tu peux te souvenir de cette rencontre-là ou de ce processus-là et tu peux voir toute la portée de l'amour de Dieu. Comment il a changé les choses dans ta vie. Comment il t'a redonné de l'espoir, de l'espérance. Moi, ça a été mon cas. Devant l'antise de la mort, alors que je me disais chrétien, j'étais tellement chrétien, soi-disant, que j'avais peur de la mort. Incroyable, un chrétien qui a peur de la mort. On a tous peur de la mort. C'est pas la mort en tant que passage qui nous fait peur. C'est ce qu'il y a après. Et on ne sait pas toujours ce qu'il y a après quand on n'est pas chrétien. Et on angoisse de ça. Et moi, j'étais angoissé. J'étais jeune, mais angoissé par la mort. Et ce jour où l'évangile m'a été annoncé, cette lumière qui m'a éclairé, de comprendre que finalement, de moi-même, je ne pouvais pas aller dans ce paradis, mais que quelqu'un avait payé ce prix qui s'appelait Jésus-Christ, et que ce qu'il attendait de moi, c'était juste de reconnaître mon incapacité à accéder à ce paradis de Dieu, mais que lui, le parfait, il avait fait pour moi, et qu'il voulait juste que je m'identifie à lui, que je l'accepte dans mon cœur, et que je laisse me conduire. Ça a été un jour béni pour moi. Ce jour-là, la terre n'a pas tremblé. J'ai pas connu de grande catastrophe. Non, c'est juste que mon cœur, je l'ai senti, avait reçu une lumière particulière. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que je suis baigné dans cette lumière parce que ce rapport avec la parole de Dieu, Dieu, au travers des gens, des frères, des sœurs et des pasteurs qui m'ont encadré, m'ont donné ce lien avec cette parole. Elle n'a cessé d'être ma force. Et je pense aussi que c'est pareil pour chacun et chacune d'entre vous qui avez fait la paix avec Dieu. Alors cette vision d'amour de Dieu, cette parole de Jean est pour l'Église. Mais nous le savons tous, l'Église, ce n'est pas d'abord le bâtiment dans lequel nous nous réunissons. Parce que de toutes les façons, pour ce qui nous concerne, ce bâtiment appartient à la ville. Elle nous la prête et nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais l'Église, c'est vous et moi, c'est le peuple de Dieu rassemblé. C'est le peuple de Dieu rassemblé. Alors pour cette Église-là, rappelons-nous que le monde actuel n'est pas un monde qui a soif de Dieu. C'est un triste constat. Et nous étions de ce nombre-là, nous n'avions pas soif de Dieu. Pour certains d'entre nous qui étions religieux, nous croyions même que nous connaissions Dieu. Et nous vivions comme nous voulions aussi. Et que parfois, ce n'est pas la forme de l'Église qui repousse les gens. Parce que quelquefois, on a cru que c'est la forme de l'Église. Non. Les gens n'ont pas soif de Dieu parce que nous sommes dans un monde dit post-moderne. On a dépassé la modernité. L'homme est devenu son propre Dieu parce qu'il a été en capacité de créer des choses incroyables. On est allé sur la Lune il y a bien longtemps. Et il y a quelques années, on a même réussi à déposer un petit robot sur la planète Mars. Incroyable. Et ce petit robot a fait 20 ans de traversée dans l'univers pour atterrir. Comment on a pu faire ça si on n'est pas des dieux? Comment on a pu faire ça si on n'est pas des dieux? Mais en fait, finalement, ce n'est pas si faux que ça. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et dans le texte de Genèse, on dit que nous sommes des petits dieux, créés à l'image de Dieu. Sauf, avec la mention sauf, que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes à son image. Et parce que nous sommes à son image, il nous a créé intelligents. Donc l'intelligence qui se déverse dans la science vient de Dieu. Parce que Dieu est le plus grand scientifique. C'est lui qui a placé les planètes. C'est lui qui a créé tout l'univers. Tout le cosmos est son œuvre. C'est ce que la Genèse dit avec force et raison. Dieu est le plus grand scientifique. Toutes les lois de la science et de la physique viennent de lui. La pesanteur vient de lui. Tout ce que nous apprenons, en tout cas pour ceux qui ont fait des études scientifiques, tout ce que vous apprenez vient finalement de ce Dieu qui nous a créé à son image, qui nous a doté d'intelligence. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, ouais, mais quand même, on est super intelligent. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis cette intelligence en nous. On a découvert les choses toutes seules. Je suis toujours fasciné par les découvertes des chercheurs. Ils font toujours des découvertes à tâtons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une hypothèse qu'on établit, on dit peut-être que c'est ça, et on la cherche. Et quand on la trouve, l'expression qui est devenue l'expression de référence est Eureka. Donc cette Eureka, c'est « Oh, j'ai eu cette lumière qui m'a permis de trouver cette petite formule. » Mais c'est quoi cette lumière finalement? D'où vient cette petite inspiration? Il me semble qu'elle vient de Dieu. Il me semble que la Bible dit qu'elle vient de Dieu. Parce que Dieu dit, il a tout créé bon. Et tout ce que l'homme crée de bon vient de Dieu. Après, l'homme en fait ce qu'il veut. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Il semble à vérifier que quand Einstein est en train de penser à cette mathématique quantique et qu'il a découvert cette formule mathématique, il n'avait pas préparé pour qu'on fasse une bombe atomique. Mais finalement, on l'a prise et ça a donné la bombe atomique. Et quand les hommes l'ont essayé à Hiroshima et Nagasaki, ils ont dit plus jamais ça. On ne savait pas que ça avait une telle ampleur de dégâts. Mais le péché, c'est toujours ça. C'est qu'on essaie d'être de Dieu avec des choses qu'on ne maîtrise pas. Et quand ça nous explose au visage, on dit, oulala, si on savait. Mais Dieu le sait avant nous. C'est pour ça que sa parole est un sage conseil. C'est pour ça que sa parole est un sage conseil. C'est le guide de l'intelligence qu'il nous a donné, frères et sœurs. Alors, ce monde-là, Dieu l'aime, frères et sœurs. Dieu l'aime. Cette vision d'amour de Dieu, finalement, qui nous a touché à un moment donné alors que nous n'étions pas chrétiens, Dieu continue de la déverser dans le monde aussi. Et nous qui sommes l'Église de Dieu, n'oublions pas que cette démonstration d'amour que Dieu nous demande dans nos vies quotidiennes, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles, c'est justement pour que d'autres le voient. Et que, comme dit Jésus, il dit « J'ai d'autres enfants qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Il faut qu'ils viennent dans la bergerie pour que les autres entrent dans cette bergerie, comme nous sommes entrés dans cette bergerie à un moment donné. Parce qu'il y en a eu d'autres qui nous ont interpellés par la vie ou par le message qu'ils nous ont transmis. Alors, Église de Dieu, restons vigilants sur notre mission. Notre mission, c'est de vivre l'amour de Dieu au quotidien. Et j'en parle tout en tremblant parce que c'est tout un programme, c'est tout un défi. Ne serait-ce que déjà dans nos couples, c'est un défi. Ne serait-ce que déjà dans nos relations de famille, parents, enfants, c'est un défi. Dans nos fratries, lorsque nous grandissons, frères et sœurs de la même fratrie, c'est un défi. Mais il est beau ce défi, n'est-ce pas? Il y a des défis qui sont beaux à relever. Tous les défis de l'amour de Dieu sont beaux à relever avec la grâce que nous ne sommes pas seuls. Jésus l'a dit encore dans Jean chapitre 17, je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit de Dieu viendra et il est bel et bien là, cet Esprit, pour nous conduire dans cet amour. Alors, dans cette démarche de mission de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul nous donne un texte dans l'Épître aux Philippiens, verset 27. L'apôtre Paul était pétri de l'amour de Jésus aussi, parce que son histoire est compliquée. Lui qui était un terroriste, c'est le mot qu'il faut utiliser, il était un, pour la foi chrétienne, c'était vraiment un extrémiste. Il allait chercher les chrétiens et il y avait des fatwas. Vous savez, la fatwa, c'est des condamnations à mort. Il y avait des condamnations à mort sur les chrétiens. Comme au temps de l'Inquisition aussi, dans nos pays de la France, tous les protestants sous l'Inquisition étaient condamnés à mort. Et l'apôtre Paul était de ceux-là. C'était un inquisiteur qui allait chercher tous ceux qui suivaient Jésus, les présentait aux autorités, et la plupart étaient mis à mort. C'est pour ça que dans son parcours et dans son témoignage, il dit toujours, je ne suis même pas digne d'être apôtre parce que j'ai fait des choses horribles. Mais Dieu m'a pardonné, il m'a restauré. Il dit, moi, le premier des pécheurs, j'ai été pardonné par Dieu. Alors, il a été aussi touché par certaines des églises, comme l'église de Philippe, qu'il a accompagné lorsqu'il avait été arrêté et emprisonné. Et de cette église-là, alors qu'il dit tout le bien, il dit aussi au verset 27 de ce premier chapitre, « Mais vivez comme la bonne nouvelle du Christ le demande. » Mais vivez comme la bonne nouvelle du Christ le demande. Ainsi, si je viens, je vous verrai. Et si je ne viens pas, j'entends dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle. On va faire d'autres lectures qui sont similaires à celle-là. Je vais demander, je ne sais pas si c'est à Henri ou à Viviane, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 à 12. Vas-y, Henri. Nous n'avons cessé de vous encourager comme un père. C'est ça l'apôtre Paul. Son affection pour les Thessaloniciens. Il dit, je dois vous encourager à faire quoi? À vivre comme la bonne nouvelle l'exige de vous. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. C'est avec Viviane. Amen. Ne cessant de prier pour vous, pour que vous soyez pleinement investis de la volonté de Dieu. Pour faire quoi? Pour que vous puissiez vous conduire de la façon digne du Seigneur. Cette dignité n'est pas la dignité de la richesse, cette dignité et la dignité de la reconnaissance de quelqu'un qui nous a aimés. Et de dire, comme il a fait, il nous a tant aimés que je veux juste répondre à cet amour de Dieu en vivant selon les principes. En plus, les principes qu'il me donne, c'est pour mon bien, c'est pour mon bonheur. Ce n'est pas d'abord pour lui, c'est d'abord pour moi, parce qu'il m'aime, n'est-ce pas? Ainsi, vous serez quoi? Vous serez des porteurs de bonnes œuvres, des porteurs de bonnes œuvres, des porteurs de bonnes œuvres. Et vous continuerez à progresser dans la connaissance de Dieu. Progresser. On n'arrête pas le progrès. Ça, c'est un adage du monde, n'est-ce pas? Et je veux le reprendre pour nous. On n'arrête pas de progresser avec Dieu. Il n'y a pas une étape, il n'y a pas un âge où on dit, je connais tout, je sais tout, c'est bon, je suis rempli de Dieu. Ça n'existe pas. Au contraire, plus on avance, plus on découvre qu'il faut encore aller en eau profonde avec Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 1, avec notre sœur Gertrude. Éphésiens 4, verset 1. C'est un prisonnier. Paul est en prison, mais malgré cela, pétri de cet amour, il dit aux Éphésiens, continuez. Ne vous laissez pas stopper parce que je suis en prison. Non. Il dit, je suis en prison parce que justement, l'amour de Dieu m'étreint et me pousse à annoncer la bonne nouvelle. Et tout le monde sait que je ne suis pas en prison à cause de quelque chose de mauvais. Je suis en prison parce que je rends témoignage de l'amour de Dieu. Alors vous, qui n'êtes pas en prison, vous qui êtes libre, continuez de marcher selon la dignité de Dieu. Continuez de marcher selon la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Continuez de marcher. Pourquoi nous devons faire tout ça, frères et sœurs? D'abord, un, pour nous-mêmes. Les psychologues et tout ce que vous pouvez avoir comme psychanalyste disent que finalement, quand on est bien soi-même, on est disponible pour les autres. Et c'est pour ça que Dieu nous transforme de l'intérieur, d'abord nous-mêmes. Il nous transforme pour que nous soyons changés, métamorphosés. Parce qu'il veut que nous soyons bien. Le bien, selon Dieu, ce n'est pas simplement un bien émotif, émotionnel, c'est un bien de tout notre être, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. Ensuite, que cette transformation en nous puisse parler aux autres, puisse dire quelque chose aux autres. Si nous sommes en couple, que ma transformation puisse dire quelque chose à mon épouse. Que la transformation de mon épouse puisse me dire quelque chose. Si nous avons des enfants, que ma transformation puisse dire quelque chose à mes enfants. C'est pas en étant des... On n'est pas des cinéastes dans nos familles. On n'est pas des acteurs de cinéma, on ne joue pas un rôle. Quand on joue un rôle, vous savez, les premiers détecteurs des mensonges, c'est les enfants. Si on joue un rôle, les enfants, ils le savent. Et parfois, ils nous le disent. Ils disent, papa, tu as dit ça, mais tu fais ça. Et parfois, quand on est bien, on dit, oui, mais tu sais. Mais quand on est mal, on dit, tu te tais. Parce que c'est une vérité qui nous fait un peu mal. Dieu veut que nous soyons nous-mêmes, avec nos faiblesses, avec nos limites, mais que nos enfants voient que nous progressions dans l'amour de Dieu. Qu'ils voient ce qui se passe dans nos vies. Qu'ils voient les changements. Qu'ils voient les choses. Et tôt ou tard, Dieu s'en servira dans leur vie. Pareil pour toutes nos autres relations, que ce soit dans la grande famille, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine scolaire. C'est Dieu qui le fait. Nous avons simplement besoin, nous, d'être ce que nous sommes, des chrétiens, de le vivre et de progresser dans cette vie-là. Notre monde est une société dite sécularisée, dite laïque, c'est-à-dire que Dieu est devenu une affaire privée. Et j'ai entendu, j'ai lu un article hier où quelqu'un reprochait à une personne politique d'avoir dit sa foi publiquement et lui disait gentiment, bah, ta foi, tu la gardes dans ta poche. On n'en a pas besoin, nous. Tu es dans un espace laïque. Comment on peut dissocier quelqu'un de sa foi? C'est pas possible, même si c'est vrai que dans les espaces publics, nous avons ce qu'on appelle le devoir de conscience, respecter toutes les autres religions. Mais est-ce que le respect veut dire que moi, je dois éteindre mon identité? Mais non. Je dois la dire sans frustrer l'autre, autant que je peux. sans dire à l'autre qu'il est dans le faux, autant que je peux. Mais en tout cas, vivre ce que je suis. Notre monde est un monde où l'évangile, qui est un évangile qui est accepté par tous les autres, c'est l'évangile du consumérisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on te dit, plus tu achètes, plus tu consommes, plus tu as de bien, plus tu seras bien, plus tu te sentiras bien dans ta peau, parce que tu auras tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, en plus, les crédits de consommation sont à la portée de tout le monde. Tu veux un bien? Bah, t'en fais pas. On peut te le faire 4 fois sans frais. T'as pas les 190 euros? C'est pas un problème. T'as même pas avancé un sou. En plus, tu commences à payer à partir du 2e mois. Ah, quelle facilité. Honnêtement, c'est pratique. Parce qu'on a aussi besoin, quelquefois, des choses qu'on ne peut pas acquérir d'un coup, parce qu'on n'a pas les moyens. Mais le piège derrière, c'est finalement d'acquérir des choses dont on n'a pas besoin tout de suite, parce qu'il y a une facilité. Et parce que derrière, le message, c'est plus tu peux acquérir des choses, plus tu vas te sentir bien. Si c'était le cas, mes frères, je vous le dis dans les yeux, est-ce qu'il y aurait encore des riches qui se suicident? Moi, je me pose toujours la question, pourquoi c'est parmi la population la plus aisée que le taux de suicide est le plus élevé? Ça m'étonne. Ce n'est pas les pauvres gens qui se suicident le plus. C'est des gens apparemment qui ont tout, mais finalement qui ont très peu. Parce qu'au fond de la leçon de morale de cette histoire, c'est que la quantité de bien n'est pas synonyme de bonheur. La quantité de biens matériels n'est pas synonyme de bonheur. Elle a l'apparence du bonheur. Elle est utile. C'est utile d'avoir des choses dont on a besoin. Ce n'est pas ça la question. C'est d'en faire la raison de notre vie finalement. De croire que notre bonheur est dans ces choses-là. Elles sont utiles parce que nous en avons besoin. Mais ce n'est pas eux qui ont besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'eux. Finalement, la façon dont nos sociétés consomment, c'est comme si c'est eux qui ont besoin de nous. Ben oui. Sans rentrer dans des détails qui seraient peut-être de ma part un jugement de valeur que je ne veux pas. Parfois, on a des choses qui fonctionnent bien, on veut quand même les changer. Ça pose question, n'est-ce pas? Si c'est pour avoir un cran au-dessus parce qu'il y a un service en plus qui est dedans, pourquoi pas, je veux bien. Mais si ce n'est pas ça, je me demande pourquoi on fait tout ça. Il y a le relativisme aussi dans notre société. C'est de dire finalement, toutes les religions se valent. De toutes les façons, l'athée, le musulman, le chrétien, le bouddhiste, le yoga, le Bruga Maraji, tout ce que tu veux sur la place publique, dans le supermarché de la foi, tout se valent. On ira tous au ciel, t'en fais pas. Le athée ira au paradis, le chrétien ira au paradis, le musulman ira au paradis, le bouddhiste ira au paradis, l'hindouisme, tout le monde ira au paradis. Donc finalement, pourquoi on s'embête? C'est pour ça que les athées disent, mais pourquoi on s'embête si tout le monde va au paradis? Moi, je ne crois pas, j'irai aussi, donc je ne m'embête pas avec des règles en plus. C'est un gros leurre. C'est un gros leurre. C'est un gros leurre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Je suis désolé de le dire. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. C'est celui qui a manifesté l'amour de Dieu. Celui par lequel Dieu a manifesté son amour en donnant sa vie pour nous. Le dire, ce n'est pas être prétentieux, c'est redire ce que la Bible dit. Alors que Dieu nous aide. Dieu aime le monde. Si Dieu n'aimait pas le monde, est-ce que nous serions ici? Non. Il y a 20 ans, 25 ans, je n'étais pas chrétien. Parce que Dieu m'a rencontré, parce qu'il m'aime. J'étais comme les autres, sans Dieu. La plupart aussi d'entre vous, pour certains 40 ans, 50 ans en arrière, pour d'autres plus jeunes. Mais parce que Dieu continue à nous racheter, à nous rappeler, à manifester son amour dans ce monde des vivants. Frères et sœurs, nous ne nous en rendons pas compte, mais notre monde est un monde d'une telle pauvreté spirituelle. J'en veux pour preuve toutes les offres de spiritualité asiatique qu'on offre aujourd'hui. En tout cas en France. Quand les gens cherchent la spiritualité, bah c'est tout ce qui est oriental. C'est incroyable. On a rejeté nos traditions, nos cultures. On dit, ouais, la foi chrétienne, c'est trop simpliste. On cherche maintenant la zen attitude. On cherche des choses qui nous font Waouh! C'est incroyable. Mais c'est d'une telle pauvreté parce que les gens reviennent toujours vides. Pourquoi? Quelle est la preuve? C'est qu'ils recherchent encore d'autres expériences. Ah, ça c'était bien, mais l'année prochaine, j'irai dans un autre temple. La foi chrétienne, pour certains, depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, fidèle à Dieu, 70, 80, et ce Dieu ne les a jamais déçus, ne serait-ce qu'une once de foi. Fidèle à lui-même, dans la simplicité, mais dans la profondeur et dans la vérité. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que la Bible et sa parole et la présence de Dieu en nous. C'est incroyable. Quelquefois, on fait tellement de gymnastique alors que la chose la plus facile est à côté. Je n'ai pas besoin de savoir faire, je ne sais pas moi, le truc zen, machin truc, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que Dieu m'a rencontré, parce que Dieu t'a rencontré, il est dans ton cœur. Et que le matin, quand tu te réveilles, que tu dis Seigneur, il y a une telle présence parfois. On n'a pas besoin d'être pasteur, missionnaire, on a juste besoin d'être chrétien et d'avoir cette relation avec Dieu. Jésus, de le prier aussi simplement, il est disponible. Il est disponible. Il est disponible et disposé. L'Ecclésiaste, si je termine par là, l'Ecclésiaste, ce grand roi a fait l'expérience du bien matériel. Dans une section, dès le début de son livre, donc, chapitre 2 du livre d'Ecclésiaste, au chapitre 2, à partir du verset 8, il dit, parce qu'il parle de la richesse, il dit, j'ai trouvé que tout était vanité. Je me suis dit, si finalement on a tellement de contraintes qu'on ne peut pas tout expérimenter dans la vie, c'est vraiment triste, puisqu'il y a tout dans le monde. Il dit, donc je me suis amusé à tout essayer dans la vie. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Il semble qu'il avait 300 concubines de Salomon. Comment il faisait? Je ne sais pas. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les en ai moins privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'est revenu. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. J'ai fait tout ça, il dit, mais il y avait quand même un vide. J'étais encore insatisfait. C'était la vanité. Donc finalement, la leçon, c'est que même sans ça, j'aurais été bien. Et c'est lui qui, à la fin de son livre, chapitre 12, il donne un conseil au jeune homme, parce qu'il est bien âgé maintenant. Il dit, si tu veux, donne-toi libre cours de faire tout ce que tu veux, tout ce que tes yeux voient, fais-le. Il dit, mais sache qu'au dernier jour, Dieu te demandera des comptes pour tout ça. Sache qu'au dernier jour, Dieu te demandera des comptes pour tout ça. Qu'est-ce que tu as fait en bien? Qu'est-ce que tu as fait en mal? Finalement, tout faire, tout avoir, ne pas se donner de limites, c'est pas non plus le bonheur. Au contraire. Alors, notre conviction, c'est que seule la présence de Dieu nous donne le bonheur. Pas le bonheur que les psychologues définissent, pas le bonheur que la psychanalyse définit, pas le bonheur que notre monde définit, mais le bonheur que Dieu définit. Ce bonheur, c'est d'abord une relation avec lui. Et de cette relation, les autres choses sont branchées dessus. Et pour les autres choses, nous pouvons compter sur lui. Il dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose te sera donnée par-dessus.